Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être en direct de 15h à 16h. Dans cette émission, on se dit tout et donc on vous dit aussi que si Mélanie Gomez n'est pas là, c'est parce qu'elle a été testée positive au coronavirus et qu'elle se repose chez elle. Mais ne vous inquiétez pas, elle va revenir très vite. Et puis grâce au docteur Jimmy Mohamed, tout est sous contrôle car vous êtes bien là, Jimmy.
Bonjour Anne, oui, écoutez, Mélanie va bien, elle se repose. On la reverra normalement la semaine prochaine, on lui souhaite un bon rétablissement. Et comme nous portons tous un masque, voilà. Et bien personne n'est qu'à contact, d'où l'intérêt de porter un masque. Même quand c'est parfois difficile à supporter, mais en tout cas aujourd'hui, on va essayer de répondre aux questions de tous les auditeurs.
Et au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va parler de la santé de nos yeux. Comment les protéger au quotidien? Peut-on les empêcher de vieillir prématurément? On en parle avec notre invité, le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue à l'hôpital Fondation Rothschild. Dans notre chronique, les maux du quotidien, nous parlerons aussi de la rubéole. Un vaccin existe, alors pourquoi cette maladie circule-t-elle toujours? Est-ce une maladie de l'enfance ou peut-elle toucher les adultes? Jimmy Mohamed vous apportera toutes les réponses. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question des gestes que l'on attend parfois pendant l'amour, mais que l'autre n'aime pas donner. Vous retrouverez tous les conseils de Catherine Blanc.
Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Et pour ouvrir cette émission, voici le vrai faux et les réponses aux questions que vous vous posez au 3921, le répondeur d'Europe 1. La première question, c'est celle de Brian.
Alors, on entend de plus en plus parler de médicaments qui sont anticoagulants pour les personnes qui sont atteintes de la Covid aujourd'hui. Et apparemment, ça les aiderait. Moi, je vous avoue que je comprends pas trop, que je comprends pas bien, que je pensais que le coronavirus était un virus respiratoire. Donc, quel est le rapport en soi avec le fait de fluidifier le sang? Voilà. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, est-ce que c'est vrai que certains malades sont sous anticoagulants?
Oui, pas tous. C'est vrai qu'on a présenté initialement le coronavirus comme une maladie respiratoire, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de complications, notamment des complications liées à des artères qui vont se boucher avec des embolies pulmonaires, une atteinte de la petite circulation. Mmh. Et certains patients vont faire des atteintes neurologiques avec un accident vasculaire cérébral, raison pour laquelle on s'est rendu compte qu'il fallait mettre certains malades plutôt graves sous anticoagulants. Et que de cette façon, on allait réduire les complications, mais aussi la mortalité. Donc, on a appris beaucoup de choses en 6 mois, mais on a encore plein de choses à apprendre malheureusement.
Oui, et on est d'accord que si on est sous anticoagulant, on n'est pas protégé du Covid.
Et non, il ne faut pas le voir dans ce sens-là. La seule chose qui va vous protéger du Covid, évidemment, c'est le port d'un masque. D'autant plus que si vous êtes sous anticoagulant, c'est que vous avez des pathologies chroniques qui vont vous faire passer dans la catégorie à risque. Puisque lorsque vous êtes sous anticoagulant, c'est que vous avez probablement une arythmie cardiaque, une maladie qui fait que vous devez fluidifier le sang comme une embolie pulmonaire. Donc, il ne faut surtout pas vous croire protégé en étant sous anticoagulant. Il faudrait qu'on se considère tous à risque, puisque même lorsqu'on dit que les jeunes ne risquent rien, on n'en sait strictement rien pour le moment. On n'a aucune idée des séquelles. Dans 10-15 ans, on aura l'air malin si on se rend compte que le coronavirus était lié à un peu plus de maladies neurologiques. On n'en sait pas. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Même chose pour les patients qui vont avoir un Covid long, des jeunes qui vont avoir des symptômes pendant des semaines ou des mois avec de la fatigue, des douleurs à la poitrine, un essoufflement. Bref, on faut tous se considérer à risque. La seule chose qui nous protège, c'est le masque.
C'est le masque. Et alors, Donald Trump, qui a été donc testé positif au Covid, a lui été traité par de l'aspirine. Ça fonctionne sur le même principe que les anticoagulants?
Il y a de l'idée, effectivement, mais sauf que l'aspirine n'a pas prouvé son efficacité pour l'instant dans le traitement du Covid, même dans les complications. Alors, Donald Trump a reçu effectivement un cocktail assez large. L'aspirine ne fait pas partie de ces traitements que vous devez utiliser ni en prévention, ni en curatif. Si jamais vous avez de l'aspirine, vous le continuez. Si jamais vous avez le Covid, la seule chose intelligente à faire, c'est d'aller voir votre médecin. Et à ce moment-là, il pourra peut-être, sous certaines conditions, vous prescrire aussi des anticoagulants. Il existe des protocoles en ville qui se font. Ça ne se fait pas qu'à l'hôpital, mais le relais, la seule personne qui peut vous informer, c'est votre médecin généraliste que je vous invite à consulter.
Bien sûr. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que par rapport au printemps dernier, on traite mieux globalement le Covid désormais. Quels sont les autres progrès réalisés à part les anticoagulants?
Évidemment, dans la prise en charge, on est moins dans le rush, vu qu'on a le temps de voir arriver les malades. Donc, la prise en charge est meilleure, vu que les services sont un peu moins remplis à l'heure actuelle. Il y a un autre traitement, c'est les corticoïdes chez les malades qui sont en réanimation, qui a fait preuve d'une efficacité sur la mortalité. Donc, on meurt moins lorsqu'on a des corticoïdes et qu'on est en réanimation. Ce n'est pas utilisé, encore une fois, en médecine de ville. Donc, c'est dans un cadre très particulier. Donald Trump a aussi reçu des corticoïdes. Donc oui, on traite mieux la maladie, mais encore une fois, soyons vigilants et ne nous contentons pas de croire que la réanimation sauvera tout le monde. Ce qui pourra nous sauver, encore une fois, c'est barbant, je sais, c'est le port du masque.
La prévention.
En attendant d'avoir un vaccin et peut-être que le salut viendra de là.
Merci Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur cette fois, c'est celle de Clara.
J'ai pris des médicaments hormonaux, du Lutéran précisément, pendant 2 ou 3 mois pour m'aider à tomber enceinte il y a quelques années. Mais j'ai lu que ça pouvait provoquer des tumeurs au cerveau, donc c'est plutôt inquiétant. Comment je peux savoir si je cours un risque ? Merci.
Alors Jimmy, est-ce qu'on peut déjà rappeler ce que sont ces traitements hormonaux, oui, parmi lesquels on trouve le Lutéran ?
Exactement, c'est des progestatifs, c'est un traitement hormonal qu'on utilise plutôt soit chez les personnes qui vont être, les femmes qui vont être ménopausées, qui vont avoir des troubles liés à la ménopause, oui, soit chez les femmes qui vont avoir des problèmes au niveau du cycle avec des bouffées de chaleur, un cycle qui va être trop long ou trop court. Et on s'est rendu compte que ce traitement hormonal pouvait avoir des effets secondaires.
Alors, on a parlé de ce médicament parce que l'Agence nationale du médicament, de sécurité du médicament, lance une grande consultation publique le 2 novembre sur sa chaîne YouTube. Quel est l'objectif ? Il va y avoir des experts qui vont intervenir en direct ?
Oui, c'est une consultation publique. On s'est rendu compte que ce traitement pouvait développer des tumeurs cérébrales qui se développent au niveau de membranes qui enveloppent la moelle et le cerveau, qu'on appelle les méninges. C'est un méningiome. Et donc, la question, c'est à qui doit-on donner ce traitement, le Lutéran, le Luténil, pour réévaluer son efficacité, puisque certaines patientes en ont besoin. Et tout ce qu'on sait, c'est que plus vous avez ce traitement longtemps, plus vous augmentez votre risque d'avoir ce méningiome. Donc, pas de panique si vous avez eu 1 ou 2 ans de traitement, puisqu'on sait que c'est au bout de 5 ans seulement que vous multipliez votre risque par 12 d'avoir un méningiome. Donc, ce risque est conséquent. Raison pour laquelle, si vous avez plus de 35 ans et si vous avez eu ce traitement pendant plus de 5 ans, votre médecin généraliste doit vous faire faire une IRM cérébrale. Et si jamais vous avez eu ce traitement et que vous avez des symptômes, évidemment, des maux de tête, une faiblesse musculaire, des troubles visuels, et bien à ce moment-là, vous ferez une IRM. Et la consultation publique rendue le 2 novembre permettra de savoir à qui on doit vraiment donner ce traitement pour le réévaluer.
Voilà, et dernière question pour les patientes qui suivent actuellement ce traitement et qui seraient inquiètes, que font-elles ?
Le relais, c'est le médecin généraliste. C'est pas Internet, c'est pas Google. Allez voir votre médecin et à ce moment-là, il vous donnera toutes les informations. Ce traitement ne pose pas de problème quand il est de courte durée. Discutez-en avec le médecin traitant ou même le gynécologue.
Merci Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Clara qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 3921, c'est 0,50 centimes la minute. Surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à l'hôpital Fondation Rothschild. Et nous allons parler de la santé de nos yeux. Quels gestes faut-il faire pour les protéger, pour éviter le vieillissement prématuré ? On en parle tout de suite avec notre invité.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Je suis heureuse de vous accompagner dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Bonjour docteur Damien Gatinel.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. On parle aujourd'hui avec vous de la santé de nos yeux. Alors on va déjà commencer par s'intéresser à nos yeux physiologiquement. Nos yeux, on a l'impression qu'ils sont fragiles. Alors c'est une réalité ou c'est plutôt un organe qui est assez costaud ?
C'est un peu les deux, mais c'est quand même un organe dont il faut se soucier et préserver ses fonctions qui sont des plus nobles, puisque c'est l'œil qui nous permet de capter la lumière. Et donc, cette étape, c'est l'étape indispensable à la vision.
Et ce qui effraie avant tout, c'est le choc direct sur le globe oculaire. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier ? Un choc qu'on a reçu, par exemple, même dans l'enfance, ça peut se répercuter à l'âge adulte ?
Tout à fait. On observe souvent chez les patients qui présentent des cataractes jeunes ou alors un décollement de rétine, la notion de traumatisme dans le passé.
Donc ça veut dire que n'importe quel traumatisme, si un enfant par exemple reçoit un stylo dans l'œil, un coup de poing d'un camarade, mieux vaut consulter, mais plutôt l'ophtalmo, parce qu'en général le médecin traitant peut être, on regarde ce qui se passe, mais il peut être un peu vite dépassé par rapport à l'examen.
Il faut un examen ophtalmologique, parce que seul l'ophtalmologue est équipé de ce qu'on appelle le biomicroscope, la lampe à fente, c'est l'appareil sur lequel vous posez le menton quand vous allez chez l'ophtalmo, et c'est une sorte de loupe avec lequel on voit beaucoup plus de détails qu'à la simple inspection comme ça visuelle.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit cours de biologie ? L'œil, c'est composé de quoi ? Donc, il y a la cornée, le cristal, hein, il y a le vitré.
Oui, c'est ça.
Comment ça fonctionne ?
Alors, d'avant en arrière, la première tunique qu'on rencontre, bon, il y a les larmes, bien sûr, c'est un petit film très transparent qui recouvre la cornée. La cornée, c'est une première optique qui, ensuite, est séparée de la seconde par la chambre antérieure qui est remplie de liquide. L'œil n'est pas, enfin, ces parties-là ne sont pas vascularisées, donc elles se nourrissent par ce liquide transparent. Donc le cristallin qui est la lentille qui nous permet de voir de loin et de près et qui est aussi le siège de la cataracte plus tard. Derrière le cristallin, on rentre dans ce qu'on appelle la chambre postérieure de l'œil qui est remplie d'un gel qui s'appelle le vitré qui pose en général pas trop de problèmes sauf quand il se condense. Ça explique pourquoi certains patients voient des petites paillettes qui s'appellent des mouches. Oui. C'est des condensations du vitré, c'est plus fréquent chez les myopes. Et le vitré, donc lui, donc remplit l'intérieur de l'œil et la tunique qui tapisse la paroi postérieure à l'intérieur, c'est la rétine, c'est le capteur, on dirait la pellicule, si on associe l'œil à un appareil photo, et c'est cette pellicule qui est imprimée par la lumière focalisée par la cornée cristalline.
Et tout ça reste dans un environnement humide. Est-ce que du coup, c'est important de boire pour garder
tout à fait.
L'humidité?
Oui, il faut boire régulièrement. Le vitré peut se déshydrater et pourquoi pas causer des problèmes parfois de décollement de rétine qui sont un peu plus fréquents l'été, peut-être, déshydratation, on ne sait pas.
Parce que du coup, justement, lorsque ce n'est pas bien hydraté, il peut avoir une vraie conséquence sur l'œil, au-delà d'avoir de la sécheresse oculaire, parce qu'on comprend tous qu'avoir les yeux qui collent, ce n'est pas sympa, mais il peut avoir un vrai impact derrière sur...
Sur la sécheresse, c'est un peu plus compliqué parce que quand on boit beaucoup, on n'a pas pour autant les yeux plus hydratés. Mais il vaut mieux boire aussi pour éviter de déshydrater le vitré. Ouais.
La couleur des yeux, ça a une importance. Ça dit quelque chose de la fragilité de l'œil. On dit que les yeux clairs sont plus fragiles.
Oui, ils ont un peu moins de pigments, donc la lumière les impressionne plus peut-être. Mais c'est aussi une petite légende quand même. Il y a un peu des deux.
Un truc tout bête, mais les cils, est-ce que ça a une vraie fonction? Parce qu'il y a la fonction esthétique, on peut le comprendre. Mais est-ce que ça protège vraiment de quelque chose?
Oui, alors en général, quand un organe existe, c'est qu'il a une petite fonction. Et les cils sont des sortes de tapis brosses qui permettent donc de chasser un peu, par leur effet de brassage de l'air, les particules, d'en piéger aussi pas mal, puisqu'on cligne 10 000 fois par jour à peu près. Donc ça fait quand même à la fois les paupières qui nettoient l'œil et les cils qui attrapent les petites particules en suspension, de quoi préserver justement l'intégrité de la surface oculaire.
Alors là, en ce moment, avec nos masques, on a parfois le masque qui remonte contre les cils. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes oculaires
de
liés au masque?
Oui, il y a des problèmes oculaires liés au masque. Bon, la buée, bien sûr, mais c'est surtout le fait que quand l'air est expiré, il passe vers le haut et il dessèche en fait la surface des yeux. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit des patients qui nous consultent en disant « j'ai les yeux secs en ce moment » et particulièrement plus depuis que je porte le masque.
Et d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà, ouais, on peut leur proposer des...
Bah, bien ajuster le masque, essayer de le rendre étanche sous les yeux, par exemple, ça peut être une solution.
Et des petites gouttes, peut-être? Ça sert à quelque
chose?
Bien
sûr, si l'œil est sec, il faut hydrater ses yeux et faire attention à bien ajuster le masque. Ouais.
Jimmy?
Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent préserver notre vue, ou en tout cas améliorer le capital visuel?
Je pense que l'alimentation joue un rôle plutôt en négatif, dans le sens où il faut éviter les carences, évidemment. Mais aujourd'hui, on a une alimentation suffisamment diversifiée pour avoir son apport quotidien garanti en vitamine C, en vitamine A, en vitamine D. Toutes ces vitamines sont importantes. Il y a des antioxydants. Alors, il faut privilégier une vie saine, mais je crois qu'à chaque fois que vous faites une émission, le spécialiste vous dit la même chose. Donc, il faut éviter les abus. Le tabac, ce n'est pas très bon pour les yeux. Tout ce qui est hygiène alimentaire va, bien sûr, permettre à l'œil de maintenir son état physiologique optimal.
Et certaines maladies ont des répercussions aussi sur les yeux. Les diabétiques ont parfois des complications oculaires.
L'œil, c'est un carrefour où on peut observer beaucoup de maladies parce qu'il y a du cartilage, c'est la paroi de l'œil, il y a du tissu neurologique, c'est la rétine, il y a des vaisseaux sanguins, donc on peut voir de l'hypertension artérielle, on peut voir du diabète au fond de l'œil, on peut voir plein de choses et c'est pour ça qu'il est important de faire un examen de temps en temps parce que parfois l'ophtalmologue découvre une hypertension artérielle en regardant le fond d'œil.
Et alors le diabète et problème oculaire, c'est dû à quoi en fait?
Alors le diabète, c'est... Pour son expression oculaire, il y a deux problèmes. Le plus important, c'est la rétinopathie diabétique. C'est une fuite des capillaires qui sont donc endommagés par le diabète. Donc on voit des petites fuites au niveau du fond d'œil. Et puis il y a aussi la cataracte qui apparaît un peu plus précocement chez le diabétique.
On apprend vraiment beaucoup de choses avec vous, docteur Damien Gatinel. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes où nous avons encore pas mal de questions à vous poser.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être. Et dans ce studio, avec nous aujourd'hui, notre invité, c'est le docteur Damien Gatinel, chirurgien, ophtalmologue, chef de service à l'hôpital Fondation Rothschild. On parle avec vous de la santé de nos yeux et des réflexes à avoir au quotidien pour les protéger. Et qui dit quotidien, dit écran actuellement. Alors écran, lumière bleue, est-ce que cette lumière bleue est vraiment nocive pour nos yeux et de quelle façon?
Alors j'espère qu'elle n'est pas trop parce qu'à Europe 1, c'est quand même la couleur dominante.
Il y a beaucoup d'écrans aussi, oui.
Alors c'est comme toute chose, il ne faut pas en abuser. La lumière bleue, elle est un peu plus toxique parce qu'elle est un peu plus énergétique que la lumière rouge. Et en même temps, elle a des vertus. Elle nous permet de nous caler sur le plan circadien du rythme de nos biorhythmes un petit peu. Et on pense aussi qu'on avait fait une émission sur la myopie, je crois, et on avait expliqué que les enfants qui passent du temps à l'extérieur ont moins de myopie statistiquement que les autres parce qu'ils sont peut-être justement soumis à la lumière bleue. Alors, c'est une question de dosage, et c'est vrai que si on passe sa journée sur un écran, il n'est pas inutile d'avoir des lunettes filtrantes, peut-être, ou un écran qui lui-même coupe un peu. On peut faire des réglages maintenant sur les écrans.
Et il y a peut-être une notion aussi de distance à l'écran. Faut pas avoir les yeux... collé à l'écran.
Alors, ça, c'est l'ergonomie du poste de travail. Oui, il faut avoir un poste de travail qui est pensé pour pouvoir accueillir un travailleur d'écran au fil de la journée. Et ça suppose une distance, une hauteur par rapport aux yeux, aux épaules, etc. Évidemment, ce qui est pas mal, c'est d'avoir, là comme dans le studio, des fenêtres qui permettent de temps en temps de faire une petite pause c'est de regarder au loin, il faut reposer ses yeux, pas faire un travail trop prolongé. Toutes les 20 minutes, on recommande de, pendant une minute ou deux, de regarder au loin. Voilà.
Donc cette lumière bleue, elle n'est pas nocive en tant que telle, c'est l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc plutôt le matin, si on va avoir un petit flash d'énergie, vu qu'elle stimule en quelque sorte le réveil, à limiter le soir. Mais un enfant qui serait derrière un écran, souvent on a nos enfants qui peuvent devant la télé, on dit non mais ça va t'abîmer les yeux. C'est faux finalement tout ça ?
C'est un peu faux, ça va révéler des défauts oculaires sous-jacents qui étaient méconnus, comme par exemple des problèmes de correction optique, un petit peu d'astigmatisme, un petit peu d'hypermétropie. Ça peut se révéler par ce qu'on appelle de l'asthénopie, c'est-à-dire une fatigue oculaire accrue, plus rapide que chez quelqu'un qui arrive à travailler longtemps sur écran. Mais en soi, l'écran n'est pas vraiment source de graves problèmes, c'est un révélateur plutôt de problèmes sous-jacents.
Vous parlez de fatigue oculaire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fin de journée, on a les yeux qui piquent.
Les yeux qui piquent, qui
brûlent. Donc c'est un vrai truc, c'est pas juste un truc psychologique, on dit la fatigue oculaire n'existe pas, on peut vraiment sortir des choses.
Il y a une expression en anglais, le computer vision syndrome, le syndrome de la vision sur écran, hein, on pourrait dire comme ça, qui associe rougeur, sensation de fatigue, et justement besoin de frotter, on en reparlera, qu'il faut surtout réprimer.
Et c'est grave de ne pas tenir compte de cette fatigue oculaire et de ces yeux qui piquent.
Alors, on ne va pas perdre sa vision en regardant des écrans, mais on va peut-être s'irriter les yeux en les frottant, en les contaminant, etc. Donc, c'est très important d'adopter une bonne hygiène sur ce plan-là.
Il y a un lien entre myopie et écran, donc au-delà du fait qu'il y a la lumière bleue qui joue.
Alors, la lumière bleue, elle est plutôt, paradoxalement, encore une fois, protectrice de la myopie quand c'est de la myopie naturelle, quand c'est de la lumière naturelle en extérieur. Mais on sait aussi que rester à l'intérieur, faire de l'écran, de la lecture, est corrélé plutôt à une incidence plus marquée que la myopie. Donc tout est une question de dosage, encore une fois.
Parce qu'on sollicite la vue de près, c'est ça la
voilà,
vision
on accommode beaucoup pour regarder de près, et ça a été incriminé comme mécanisme d'apparition de la myopie.
Oui. Et c'est ce qu'on peut voir notamment chez des étudiants qui vont travailler beaucoup, qui vont être constamment le nez derrière les bouquins. Du coup, il y a plus de myopes en médecine, par exemple ?
Il y a plus de myopes chez les étudiants. Oui, la myopie est corrélée au degré d'études supérieures.
Alors après la lumière bleue, il y a la lumière du soleil. Alors là, on sait aussi qu'elle est, elle est néfaste à haute dose.
Oui, ça c'est les ultraviolets.
Voilà.
Alors c'est des radiations encore plus énergétiques que le bleu. Alors nos yeux n'y sont pas sensibles parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'à la rétine. Ils sont arrêtés par des filtres au niveau de la cornée du cristallin. Mais justement, si on expose trop ses yeux aux UV, c'est un peu comme pour la peau. On peut avoir des problèmes et des cataractes précoces, par exemple.
Donc là, c'est le cristallin qui est abîmé par le soleil.
Voilà, c'est la lentille à l'intérieur de l'œil qui... subit l'action des ultraviolets et les mécanismes oxydatifs physiques qui peuvent léser les protéines. Il faut savoir que l'œil, c'est une horlogerie très complexe. Le cristallin, c'est un organe souple qui est transparent. Et ce n'est pas évident pour la nature d'avoir mis ça au point. Donc, si on perturbe ces mécanismes, soit avec des problèmes glycémiques, par exemple dans le diabète, ou des problèmes physiques comme les ultraviolets, tout ça peut se détraquer et entraîner des cataractes précoces, par exemple.
Pour l'instant, on repassera pour le soleil. La météo est plutôt mauvaise. Mais si jamais on a, on va dire... des vacances de Noël acceptables, que l'épidémie est gérée, qu'on part à la montagne. Rêvons un peu, soyons fous. Est-ce qu'il faut porter des lunettes de soleil à la montagne ? Et si oui, à partir de quel âge ? Est-ce que les enfants, un enfant de 3-4 ans, doit porter des lunettes ?
Il est crucial que enfants, adultes, portent des protections adaptées, en particulier en environnement montagneux où, en plus de la lumière solaire intense, il y a la réflexion sur les surfaces couvertes de neige. Donc on a double exposition. Et il faut avoir des lunettes donc, qui recouvrent bien. Les lunettes de glacier ou les lunettes conçues pour les sports alpins sont les sports de montagne sont particulièrement recommandés.
Docteur Gatinel, on va faire une courte pause et on continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Ce rendez-vous revient dans un instant. On vous aide à prendre soin de vos yeux aujourd'hui. Nous parlons de la santé visuelle et nous allons évoquer le kératocone. Si vous ne savez pas ce que c'est, franchement, restez avec nous parce qu'après ça, vous ne vous frottez plus les yeux comme avant. Je ne vous en dis pas plus. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Et nous sommes toujours en studio avec notre invité, le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à l'hôpital Fondation Rothschild. Avec vous, nous parlons de la santé de nos yeux. Et comme promis, nous évoquons à présent une mauvaise habitude qu'on a presque tous, mais qui peut coûter cher à notre santé oculaire. C'est le fait de se frotter les yeux parce qu'on a une poussière, des allergies. Et se frotter les yeux, en fait, c'est très mauvais, docteur.
C'est très mauvais si on le fait tous les jours. Plusieurs fois par jour et pendant plus de 10-15 secondes.
Oui, parce que vous m'avez montré une vidéo avant l'émission qui montre donc ce qui se passe dans la boîte crânienne par IRM.
Ah oui.
On voit le globe oculaire qui s'enfonce.
Ah oui, c'est stupéfiant.
C'est
on ne s'attendait pas à voir des images aussi traumatisantes parce qu'on a fait ça avec un volontaire, hein, mes assistants, le docteur de belle manière, Guillaume. Mm-hmm. Donc il a été modérément se frotter les yeux dans l'IRM, on va dire, et les images sont spectaculaires. Alors on n'ose pas imaginer ce qui se passe chez les patients qu'on voit avec des pathologies qui découlent des frottements et qui se frottent les yeux jusqu'à en faire du bruit.
Parce que justement, quel est le risque ? Parce que de façon inconsciente, on se dit « Oh, c'est pas bon de se frotter les yeux », mais on n'a pas conscience qu'il y a une vraie pathologie derrière qu'on peut développer à cause de ça ?
Je pense qu'il y a un déficit très profond d'information vis-à-vis d'un geste qui est considéré comme banal, que les enfants font généralement très petits, dès la naissance, voire parfois in utero. Mmh. Il y a des échographies, on voit l'enfant qui se frotte l'œil. Donc c'est quelque chose, les enfants sont fatigués, ils se frottent les yeux, c'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Mais c'est pas un enfant qui se frotte l'œil de temps en temps, il va pas avoir de kératocone. En revanche, un enfant qui développe une allergie vers 7, 8, 9 ans, qui commence à prendre l'habitude de se frotter, va pouvoir au fil du temps induire des lésions cornéennes permanentes qui vont être silencieuses au début, mais qui vont faire plus tard dire à ses parents ou à lui-même qu'il voit un peu flou d'un œil, un astigmatisme, c'est un défaut visuel, va apparaître. Mmh. On va faire un examen de topographie cornéenne et là on va avoir une déformation de la cornée avec un amincissement et c'est malheureusement un peu irréversible. En revanche, c'est ça qui est très positif, dans notre hôpital, on stabilise parfaitement les patients qui ont un kératocone, et ça c'est un message positif, à partir du moment où ils arrêtent définitivement de se frotter les yeux vigoureusement avec les phalanges et qu'ils traitent plutôt les causes qui les poussent à se frotter.
Mais alors, il y a une bonne façon de se frotter les yeux, vous ne dites pas avec les phalanges,
ça veut dire que si la seule bonne façon, c'est de... Parce que quand ça gratte, c'est souvent la muqueuse oculaire du bord des paupières. Et on utilise l'œil comme support. Mm-hmm. Malheureusement, l'œil encaisse l'énergie, et c'est une énergie colossale par rapport à ce qu'est l'œil. Hein. La cornée, c'est 0,5 mm son épaisseur. C'est du collagène, c'est pas une structure métallique. Donc, c'est fragile. Et vous savez, on prend l'exemple des gens qui ont des problèmes de gencives parce qu'ils se brossent mal les dents. Ça étonne personne. Et moi, j'ai encore même des confrères qui s'étonnent à l'idée que frotter les yeux puisse entraîner le kératocone, alors qu'ils admettent volontiers qu'il y a une façon de se frotter les dents. Pour les yeux, il y a une façon de ne pas les frotter, surtout, ou alors de tirailler le coin de la paupière, mais d'accord, ne jamais utiliser l'œil comme support. C'est très important.
Je me souviens, docteur Dacatinel, on s'était vu en consultation, j'avais des lunettes à l'époque et vous m'avez dit que j'étais un frotteur. Alors sur l'instant, je l'ai mal pris, mais un frotteur, oui, mais au niveau des yeux. Et donc vous m'avez montré, il y a un truc tout simple pour savoir si les gens sont des frotteurs avec les lunettes. Vous m'aviez scotché pour savoir de quel côté je frottais plus mon œil de l'autre.
Oui, parce que quand les gens frottent avec les lunettes, ça fait jouer la branche de lunettes et ça déforme parfois jusqu'à la monture.
Donc trahi par ces lunettes.
Ah oui. Voilà. Donc si la monture se déforme, imaginez ce qui se passe au niveau de la cornée qui est moins résistante qu'une monture de lunettes.
Et est-ce qu'il y a des petites choses du quotidien qu'on pourrait faire justement pour éviter de se frotter? Est-ce que la position dans laquelle on dort pourrait aussi avoir un impact?
C'est une très bonne remarque. On a publié un article récemment où on a réalisé que les gens qui dorment sur le ventre ou sur le côté, avec un appui de la tête dans l'oreiller, et on n'a pas le choix quand on dort sur le ventre, ont beaucoup plus de kératocone que la population des patients qui dorment sur le dos.
Parce que c'est l'oreiller qui frotte la paupière.
Voilà, alors il y a plusieurs mécanismes, c'est encore des hypothèses, mais l'oreiller frotte, mais c'est surtout le poids de la tête sur l'œil. C'est 10, 12 kilos, 14 kilos une tête. Donc sur un œil, ça fait un poids permanent. Les acariens de la literie qui peuvent, chez les allergiques, contaminer la surface oculaire et les faire se frotter le matin au réveil. Le matin au réveil, la cornée est un peu hydratée, elle est plus fragile. Donc il faut dormir sur le dos. Si on a un kératocone, mettre des protections oculaires, essayer de dormir différemment. Et on pense que dans bien des cas, c'est parfois une position de sommeil sur le ventre avec l'appui toujours du même côté qui fait qu'un jour, le patient développe un kératocone. Et en général, c'est des kératocones du côté où la tête est appuyée.
Et ça se manifeste comment? On peut savoir, sans examen approfondi, qu'on a un kératocone?
Alors, en général, on le sait trop tard, puisque c'est quand on fait un bilan pour une vision qui baisse, astigmatisme, myopie, etc. On les découvre parfois avant, chez les gens qui viennent pour se faire opérer de la myopie, comme Jimmy. Et on voit qu'ils sont frotteurs parce qu'ils ont une forme intermédiaire. C'est-à-dire que le kératocone, en fait, ce n'est pas une maladie qu'on a ou qu'on n'a pas d'une certaine manière. Il y a un spectre de déformation continue entre la cornée qui n'a jamais été frottée, qui est très régulière, et la cornée qui a un gros kératocone. Et c'est ça aussi qui laisse penser que le facteur frottement est l'essentiel et sans lequel la maladie n'apparaît pas finalement.
Et vous dites que justement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter avec des lunettes classiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses, certaines lentilles pourraient aider à retrouver un peu de vision correcte?
Alors, pour les gens qui ont un kératocone, au stade où les lunettes ne corrigent plus l'astigmatisme parce qu'il est devenu trop important ou trop irrégulier, il faut adapter des lentilles plutôt rigides ou hybrides, qui sont un peu plus confortables. Et ça redonne un galbe harmonieux à la première interface que la lumière rencontre et ça permet de ramener la vision à des niveaux de correction tout à fait correct.
Et lorsque la maladie est très avancée, on a quelque chose à proposer à la fin?
Alors, il y a des interventions qui peuvent être proposées chez ces patients. Et quand c'est trop tard, c'est la greffe de cornée. Donc là, on change la cornée. Donc il faut vraiment éviter d'arriver à ce stade. Mais encore une fois, j'insiste sur le bienfait de l'arrêt des frottements qui doit être vraiment strict. Et encore une fois, moi je sors de ma consultation ce matin, j'ai vu des patients, ils étaient tous stables parce qu'ils ont observé les recommandations, ne plus frotter du tout les yeux et dormir dans une autre position que celle qui implique qu'on appuie sa tête sur la main, sur le bras. Il ne faut pas dormir avec le bras sur la tête non plus. Il faut dormir en évitant, en sanctuarisant ses globes oculaires.
Oui, voilà. Vous avez raison, moi je suis un ancien frotteur répandu, je trouvais bien désormais maintenant.
Vous dormez sur le dos.
Je ronfle sur le dos, mais j'ai expliqué que c'était mes yeux ou le ronflement, donc c'est le ronflement. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup docteur Damien Gatinel d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir aidé à prendre soin de nos yeux. On l'a compris, hein, un peu d'écran mais pas trop, se protéger du soleil et surtout ne pas se frotter les yeux, voilà. C'est très important.
Et la vidéo des frottements IRM est en ligne et je pense que Jimmy va la retweeter.
Merci beaucoup.
Merci Jimmy. Merci.
Dans un instant, notre rubrique Les bobos du quotidien. On va parler aujourd'hui de la rubéole. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes très heureux de vous accompagner jusqu'à 16h. Tout de suite, c'est notre séquence Bobo du quotidien. Le docteur Jimmy Mohamed répond tout haut à toutes les questions qu'on se pose tout bas. Et l'on parle aujourd'hui de la rubéole. C'est une maladie dont on entend souvent parler quand on doit faire vacciner ses enfants ou au moment d'une grossesse. Mais les symptômes ne sont pas forcément très connus, pas simple de s'y retrouver. Notre journaliste Benjamin Lévesque a pu s'en rendre compte dans la rue.
C'est une maladie infantile.
C'est quelque chose qui est en rapport avec les poumons.
Pas une maladie qui est dangereuse pour les femmes enceintes.
Je pense que c'est des petits boutons sur le corps, certainement de la fièvre, j'imagine.
La rubéole, c'est pas les enfants?
Je pense que c'est comme un virus, hein. Ça s'attrape entre enfants.
On la voit un peu moins peut-être maintenant avec la vaccination, mais c'est au même titre que la rougeole, la scarlatine, etc.
Je crois que je l'ai eu quand même, malgré le vaccin, j'ai eu une rubéole. Oui, ça fait des ganglions, non, il me semble. Ou je confonds avec les oreillons.
Donc c'est un vaccin qui a été... en fait, c'est un vaccin qui traite plusieurs pathologies. Oreillons, rougeole, rubéole.
Est-ce que ça existe encore? Je pense que oui, il y a de grandes chances.
Alors Jimmy, la rubéole, c'est une maladie virale, ça c'est vrai. Mais elle se manifeste et elle s'attrape comment?
Oui, alors c'est une infection virale. Ça appartient à la famille des togavirus. Je trouve ça très drôle comme nom, les togavirus.
Oui, effectivement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une infection qui passe inaperçue dans 50% des cas. Vous n'avez aucun symptôme, vous l'avez, tout va bien.
Pas de fièvre, rien.
Exactement. Et dans 50% des cas, vous avez des symptômes avec de la température, souvent modérée, à moins de 39. Vous avez des maux de tête, le nez qui coule, une conjonctivite. Et une auditrice l'a dit, effectivement, des ganglions derrière les oreilles. C'est un peu comme les oreillons, mais aussi au niveau du cou. Et puis, vous avez une éruption cutanée qui va survenir au bout de quelques jours, qui va toucher d'abord le visage et qui va s'étendre petit à petit sur l'ensemble du tronc et qui va disparaître au bout de quelques jours. Comme toute infection virale, elle est contagieuse et elle s'attrape au travers de gouttelettes de salive. Vous postillonnez, vous crachez, vous éternuez et les gens tombent malades après une période d'incubation qui est assez longue, 2 à 3 semaines.
Ah oui.
Et comme le coronavirus, on est symptomatique, on est contagieux. Avant d'avoir des symptômes, une semaine avant d'avoir la moindre fièvre, le moindre nez qui coule, eh bien vous pouvez déposer du virus et vous êtes contagieux pendant 1 à 2 semaines. Donc c'est une infection virale qui est plutôt contagieuse.
Alors, elle se soigne bien cette maladie, même si maintenant il y a un vaccin aussi.
Alors oui, elle se soigne bien parce qu'elle ne se soigne pas en fait. Elle évolue toute seule comme une rhinopharyngite classique. En règle générale, on donne du paracétamol pour le confort, on attend que ça passe, on lave le nez quand il est pris et puis on surveille. Vous n'avez pas besoin de traitement antibiotique, il y a peu ou pas de complications. Elles surviennent parfois simplement chez des femmes avec des arthralgies, des douleurs articulaires, mais on guérit en général sans séquelles.
Et il y a aussi des risques pour la femme enceinte.
Et oui, c'est le principal problème, c'est la rubéole congénitale. C'est la transmission de la rubéole de la maman vers le bébé, le fœtus, au travers du placenta. Le problème, c'est que c'est dramatique, notamment au premier trimestre. Si jamais vous transmettez la rubéole, il y a 70 à 100% de risque de malformation secondaire.
Ouais.
Et ce risque augmente jusqu'au 6e mois. Et à partir de ce moment-là, le risque diminue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être responsable de mort fœtale avec des fausses couches. Et puis aussi de rubéole congénitale. L'enfant qui naît arrive de façon parfois prématurée avec un retard de croissance. Il peut avoir une atteinte oculaire, une atteinte cérébrale, un trouble du développement, des troubles de développement cardiaque. Donc toutes des pathologies qu'on aimerait éviter, surtout qu'il y a un traitement qui s'appelle la vaccination.
Voilà. Mais alors, si on ne s'est pas fait vacciner pendant l'enfance, on peut le faire à l'âge adulte?
Exactement. La vaccination est obligatoire pour les enfants depuis 2018. Donc c'est 2 injections. On fait le premier temps à 1 an, puis à 16-18 mois. Les adultes peuvent aussi se faire vacciner en 2 injections. Le vaccin est très bien toléré, remboursé à 65% pour la Sécurité sociale. Et on associe souvent la rougeole, les oreillons et la rubéole dans le même vaccin. Donc c'est 3 en 1.
Le ROR.
Exactement.
Merci Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Il est 15h46 sur Europe 1. Dans un instant, nous retrouvons la chronique sexologie de Catherine Blanc. A tout de suite.
Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue, psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question reçue par mail, question de Samuel. Alors, je la lis. « Je suis en couple avec ma copine depuis 7 ans. Elle ne m'a jamais fait de fellation. Elle me dit qu'elle n'aime pas ça. J'ai pris la décision depuis quelque temps d'arrêter de lui faire des cunnilingus. Pour moi, le sexe, c'est donnant-donnant. » Qu'en pensez-vous, Catherine ?
Alors, évidemment que ça, c'est la question de ce donnant-donnant, chacun, évidemment, sa façon de considérer les choses, pourquoi pas. On peut se dire que ne pas faire de cunnilingus à quelqu'un qui ne vous fait pas de fellation peut être une façon de lui montrer ce que la frustration ressentie peut valoir pour elle, et peut-être considérer qu'il y a des douceurs éventuellement à lui accorder. Ceci étant, je pense que les choses dans la sexualité ne sont pas aussi partagées.
Oui, alors, vous l'avez dit déjà, il ne faut jamais se forcer. Alors, surtout au début d'une relation, mais là, ils sont quand même ensemble depuis 7 ans, donc est-ce qu'elle pourrait essayer au moins une fois ?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, on peut toujours se dire qu'on a des a priori sur la sexualité en général, et que donc, il est toujours intéressant de se dire que dans le cadre de la qualité d'une relation, on peut s'aventurer un peu au-delà de ses pudeurs ou de ses inconforts. Ceci étant, on a le droit aussi d'avoir des pudeurs, des inconforts, des dégoûts être respecté dans ces impossibles. Et au nom d'une société qui trouve que c'est formidable de vivre toutes les positions du Kama Sutra ou tous les actes de la sexualité, ce serait dommage de le faire à ce titre-là, sous prétexte que les gens normaux font tout cela, puisque ça, c'est encore une fois la société qui impose cette idée-là.
Catherine, Jimmy, j'ai un chanteur que j'adore, c'est Enrico Macias, et il disait « donner, donner, donner ». Donc là, on peut comprendre que si ce n'est pas donnant-donnant, est-ce qu'il a raison de faire la grève du sexe, en gros, et de dire bah, « si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas », vu que les rapports sexuels sont censés être un échange quand même.
Oui, bien sûr. Maintenant, si c'est rédhibitoire pour elle, elle acceptera de ne plus avoir jamais de cunnilingus, parce que ce serait trop violence acceptée que de le faire malgré tout. Donc c'est vrai que la sexualité c'est un don, elle peut s'interroger sur le fait d'être si facilement en accueil de ce qu'on fait sur son sexe, de la promiscuité accordée à ce sexe, alors qu'elle y voit quelque chose d'inconfortable ou de dégoûtant. Et puis surtout, ça indique à son partenaire qu'il n'est pas sujet de gourmandise.
Mais elle dit qu'elle n'a jamais pratiqué de fellation, donc elle ne peut pas tellement le savoir si elle ne l'a jamais fait, non ? Est-ce qu'il ne faudrait pas... lancer à l'eau, peut-être tester, je ne sais pas, ou passer cette appréhension.
Je crois que s'amuser à dire « bon allez, je n'en fais plus de cunnilingus », c'est une chose, mais à un moment donné, il faut le prendre de façon très très légère et dire « mais regarde, qu'est-ce qui te dérange ?» Parce que vous savez, il y a plein de choses qui peuvent déranger une femme dans le fait de faire une fellation. Ce peut être d'abord de voir de près un pénis, ce peut être la peur que ce pénis puisse uriner, parce qu'il y a des femmes qui ont ces confusions. Ça peut être aussi l'odeur, auquel cas il suffit aussi de la rassurer en disant « mais il est tout beau, tout propre, regarde, ils sont bons. Ce peut être aussi qu'elle ne sait pas qu'en faire et qu'elle a peur de ses propres dents, elle a peur d'être maladroite, elle a peur d'être trop vue en action et en incapacité de cette action, auquel cas il n'y a rien que le couple pour justement pouvoir apprendre, montrer et lui dire allons-y, si ça ne te plaît pas, tu arrêtes à tout moment. Je crois que c'est dire tu as une appréhension peut-être mais légitime, mais est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux t'accompagner dans cette appréhension pour que tu la dépasses, et si c'est impossible, c'est impossible.
Et est-ce qu'il y a un risque que Samuel aille voir ailleurs ? Vous voyez comme ça des motifs de rupture en consultation ?
Alors, il y a des gens qui se disent qu'effectivement, il y a des choses qui sont très importantes pour eux et que donc, ils iront le vivre ailleurs. Maintenant, je trouve que ça, c'est assez triste parce qu'il faut accepter que la vie, c'est aussi une somme de frustrations. Et que les frustrations, ce ne sont pas graves pour soi parce qu'il y a des tas d'autres choses à développer. Si toute la sexualité de Samuel tourne autour de la fellation, eh bien de toute façon, je crois que la messe est dite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut avoir un goût certain, on peut trouver qu'il y a un peu de rigidité chez l'autre, on peut trouver qu'il y a trop d'impossibles et bousculer un peu tous ces impossibles en tendresse, en chaleur, en apprentissage, pourquoi pas. Maintenant, si sous prétexte que l'on n'a pas une position sexuelle, on allait voir ailleurs, je crois que le couple ne tient pas à grand-chose.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.
Je vous en prie.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, votre duo Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Anne, vous restez avec nous pour Historiquement Vôtre avec Stéphane. On est prêts. Et aujourd'hui, on vous parle de gens qui ne nous ressemblent absolument pas Stéphane, puisqu'ils avaient tous la grosse tête.
Absolument, un peu mégalo quoi. Les Tamerlan, Jeanne d'Arc qui entendait des voix et Booba, votre
Je ne vois pas en quoi Booba et mégalo. Stéphane, vous en prenez la responsabilité.
Non, c'est vous qui le dites. Il va venir vous embêter.
Merci à tous les deux et bonne émission.